Hello, moi c'est Héloïse. En 2022, je suis partie faire un long voyage en famille avec mon mari, Daniel, et mes trois filles, Swan, 13 ans, June, 10 ans, et Violette, 7 ans. On n'avait pas vraiment l'habitude de voyager en famille avant ce projet, mais l'opportunité s'est présentée et on l'a saisie. Dans ce podcast, je raconte les différentes étapes de notre voyage, pas tant du point de vue des destinations, mais plutôt au travers des expériences que nous avons vécues. De l'Afrique à l'Asie jusqu'en Amérique du Sud, en passant par l'Océanie, je vous partage nos ressentis, nos émotions et les forces qui ont émergé pendant cette aventure. Ce voyage nous a changés. Venez écouter comment. Un petit tour et puis changeons. Bolivie, première partie. Quand nous avons commencé à voyager en septembre dernier, la Bolivie ne faisait pas partie des destinations. Initialement, ce qui était prévu après le Costa Rica, c'était d'aller au Pérou. Mais quand au mois de janvier, l'agence de voyage nous a demandé de confirmer nos billets pour les mois de mai et juin, il y avait de gros problèmes politiques au Pérou, et notamment des blocages, et en particulier au pied du Machu Picchu. Moi, je regardais un petit peu les actualités sur les groupes Facebook de Tour du Mondiste et je voyais que des familles étaient vraiment en difficulté, coincées au pied du Machu Picchu, sans moyen de transport. Et donc, je me suis dit, on ne va pas se mettre dans cette situation pareille, même si on ne sait pas trop ce qu'il en sera au mois de mai ou juin. Daniel était d'accord, donc on a changé de destination et on a choisi, et j'ai envie de dire presque au hasard, la Bolivie. Je dis au hasard parce que concrètement, ni Daniel ni moi nous étions renseignés sur la Bolivie. On n'avait aucune idée de ce qui nous attendait là-bas. Autant le Pérou, on avait une idée, mais la Bolivie, pas du tout. Et donc, on a fait un peu un pari. On a fait un pari, mais moi, j'avais l'intuition que la Bolivie, ce serait un joli pays et qu'on y verrait des belles choses. À l'approche du départ du Costa Rica vers la Bolivie, moi, je regarde un petit peu ce que ça donne au niveau du pays. Et ce que je comprends et que je transmets au reste de la famille, c'est qu'on va visiter un pays qui est assez montagneux, avec de très beaux paysages, très propice à la randonnée et où il va faire froid. Donc, autant dire que des éléments que tout le reste de la famille enchante. Le fait d'avoir froid et de randonner, je pense que... Je sais qu'il y a une forme d'hésitation et Daniel, il se dit « Mais où est-ce qu'on va se fourrer encore pendant un mois ?» À ce moment-là, on est vraiment de plus en plus détendu dans la manière de voyager. Et puis, c'est vrai qu'on vient de faire 2 semaines au Costa Rica, très cadré, très organisé. Là, on y va en mode roue libre. On a envie d'être complètement libre dans la manière d'organiser notre temps. Et donc, on s'envole vers Santa Cruz de la Sierra, en pleine nuit, encore un vol de nuit. On arrive à 2h20 du matin. Moi, j'avais organisé un hôtel qui est venu nous chercher à l'aéroport et pour lequel on a pu prendre la chambre tôt le matin. Donc, on part se coucher. Il est l'équivalent de 2h du matin côté Costa Rica, 4h heure locale. Et on ne sait pas du tout ce qui nous attend. On a atterri à Santa Cruz sur conseil de l'agence de voyage parce qu'elle nous avait vaguement sensibilisé sur quelque chose, en tout cas que nous, on n'avait pas trop retenu, c'était l'altitude, qui finalement est un sujet qui devient un sujet assez important quand on arrive en Bolivie. Et donc, ils nous avaient conseillé Santa Cruz parce que la ville est à 400 mètres d'altitude, ce qui est assez bas. Et ils nous avaient expliqué qu'il fallait ensuite progressivement monter en altitude pour que le corps s'acclimate. Bon, nous, on ne voit pas grande différence à Santa Cruz. On se lève à l'hôtel le matin, il y a de la clim dans les chambres qu'on met pendant la nuit parce que c'est vrai qu'il fait très chaud et lourd. Et puis on est en short et t-shirt, on se fait un gros petit déjeuner dans l'hôtel, on travaille parce que les conditions là sont confortables pour travailler. Et puis on se dirige vers une station de bus dans l'après-midi parce qu'on va faire notre premier trajet de nuit pour aller à Sucré. Sucré, c'est une ville, moi j'avais repéré qu'elle était... très joli et agréable. On voulait se poser 4-5 jours en Bolivie pour décider ce qu'on allait faire. Et Santa Cruz de la Sierra, c'est pas vraiment un endroit sympa. Donc on s'était dit, bah, dès le lendemain, on prendra un bus pour aller à Sucré. Et donc, c'est parti pour prendre nos premiers transports en commun. Au Costa Rica, ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est d'avoir nos propres véhicules de location et donc d'être libre dans nos mouvements. Donc pour la Bolivie, moi je m'étais renseignée, Daniel aussi de son côté, mais on n'arrivait pas à trouver de véhicule de location. Et quand on arrivait à trouver un site qui nous permettait de louer un véhicule, c'était des tarifs exorbitants. Alors que la Bolivie, c'est un pays qui est très bon marché. Et puis en regardant toujours sur les sites Facebook de voyageurs, on a compris que le bus était vraiment la meilleure solution pour se déplacer. Donc on s'est dit, bah, la Bolivie, c'est un pays dans lequel on va voyager en bus. Ça nous enchante moyennement, mais on se dit que c'est une nouvelle expérience et on verra bien comment ça se passe. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ni Daniel ni moi ne parlons espagnol. Alors Daniel baragouine un petit peu, moi je me débrouille. Mais c'est vrai qu'on est plutôt germaniste, on a appris l'allemand à l'école. Et ben, il faut qu'on se débrouille avec les notions qu'on a. Et donc c'est assez folklorique parce que en Bolivie, personne ne parle anglais. Enfin, la plupart des gens ne parlent qu'espagnol. Et ça nous met dans le bain et ça nous force à et ben, apprendre sur le tas, quoi. Pour prendre le bus, moi j'avais regardé pour réserver des billets sur Internet. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus, même dans tous les pays dans lesquels on a voyagé. Mais alors en Bolivie, on découvre très vite que réserver des billets en ligne, ça se fait de manière très rare. Il y a quelques rares compagnies qui le proposent. Et puis en plus, les tarifs sont plus élevés que sur place. Donc en fait, la meilleure solution, c'est d'aller sur place pour acheter ses billets le jour où on part. Donc on débarque en fin de matinée, tous les cinq, avec tous nos bagages dans ce terminal de bus. Et là, c'est l'explosion. L'explosion de cris. En fait, il y a des crieurs de billets de bus, des gens qui vendent les billets à la criée, qui hurlent le nom de la compagnie de bus, le nom des destinations. Et ils essayent comme ça de vous alpaguer. Il y en a qui nous tirent par le bras. Ils essayent de nous emmener vers leur comptoir. Il y a plein de comptoirs qui vendent des billets de bus. Et là, heureusement, moi, je m'étais renseignée aussi sur les réseaux et j'avais identifié deux compagnies de bus qui allaient vers Sucre et qui étaient des compagnies assez confortables. Parce qu'en fait, c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est qu'il y a tout un tas de compagnies, il y en a qui peuvent être de très mauvaise qualité, où il y a, par exemple, sur des trajets de nuit, il n'y a pas de toilette dans le bus, ou bien le bus, il est dans un état catastrophique, quoi. Et donc, moi, j'avais identifié ces deux noms-là. Donc, on se fait alpaguer, on suit deux dames qui nous présentent, nous font leur argumentaire commercial. Et puis, là, je me dis, on va aller voir une autre compagnie. Effectivement, on va à un comptoir un peu plus loin dont le nom m'était familier. Et on est reçu par un duo, une femme et un homme. Et ils sont hyper sympas. Et je sais pas, de l'intuition, on sent. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on développe de plus en plus notre sixième sens. On sent que ça va le faire. On se débrouille dans un espagnol assez basique, mais eux font vraiment des efforts pour qu'on comprenne bien tout ce qu'ils doivent nous expliquer. Le bus a l'air bien confort, les sièges sont inclinables parce qu'on va dormir dans le bus, donc c'est important. Et puis, bah, c'est moins cher que le stand d'avant, donc on se dit qu'on y gagne au change. Après, en Bolivie, c'est ce qu'on verra, les tarifs des bus sont vraiment bas. Et là, je crois qu'on paye l'équivalent de 20 euros pour une nuit en bus pour 5. C'est assez nouveau pour nous. Ils nous prennent nos gros bagages pour qu'on puisse aller manger un bout quelque part en attendant l'heure d'embarquement. Et puis le type, il a envie de discuter avec nous et d'en savoir un petit peu plus. Il nous conseille pour notre carte SIM parce que là, on veut vraiment prendre une carte SIM locale qui fonctionne partout. Donc il nous conseille le bon opérateur et on va acheter la carte SIM à côté. Il vient un peu nous aider d'ailleurs à l'acheter. Et puis il mange une barre de chocolat. Moi, je plaisante avec lui. Je lui dis qu'est-ce que c'est bon ou pas. Et il nous explique. Et puis 5 minutes après, il revient. Il a acheté une barre pour nos enfants. Mais comme ça, gentiment, quoi. Et ouais, c'est hyper, hyper touchant, hyper marquant. Et ça nous conforte aussi dans l'idée que l'accueil, mais où qu'il soit, mais même nous, quand on accueille, enfin, ça, c'est quelque chose qu'on savait parce que Daniel, il est dans le très commercial et moi je suis très dans la relation avec les gens. Mais c'est vrai que les premiers pas d'accueil dans un milieu inconnu, ils sont déterminants pour la suite. Et là, nous, ça nous met dans une atmosphère hyper chaleureuse et de confiance, alors que quelque part, on est dans le pays le plus inconnu pour nous depuis le début du voyage. On sort du terminal pour aller manger un morceau avant de prendre le bus dans l'après-midi et on trouve un boui-boui, bon, ça fait pas très propre, ça fait c'est une espèce de cafétéria. Mais bon, on n'a pas trop le choix et on est en environnement de gare routière. Donc c'est vrai que ça, pour le coup, c'est un peu comme dans tous les pays, y compris la France. C'est pas spécialement... on sent pas en grande sécurité. C'est pas très propre, il y a beaucoup de mendicité. Mais bon, il faut qu'on mange. Donc on s'assied là et on se cale l'estomac avec une assiette de frites assez moyenne et une viande panée qui est indéfinissable. Mais bon, ça passe, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Pendant qu'on mange, il y a un monsieur qui vient jouer de la guitare et jouer de la flûte type bolivienne, péruvienne. Et voilà, je lui donne une pièce parce que moi, je me dis, ça, il fait vraiment pauvre et les gens font vraiment pauvre ici.
La tête de fée.
On est assez content de quitter cet endroit et de monter dans le bus en fin de journée, qui part à un horaire plus ou moins fixe. Et le bus n'est pas complètement plein. Et là, on part pour une aventure du premier trajet en Bolivie en bus de nuit. Et ça, c'est quelque chose d'assez particulier. D'abord, il y a des embouteillages monstres en ville. Et là, on est quand même très content de ne pas avoir de voiture de location, mais d'avoir les fesses posées dans un bus. Et le bus s'arrête toutes les 15 minutes environ. Et c'est très amusant parce que ce sont des gens qui montent, de nouveaux passagers, qui embarquent parfois beaucoup de bagages. Donc il faut ouvrir les soutes du car et ils embarquent des énormes cartons. Et puis on ne sait pas trop où ils ont eu leurs tickets, comment ils les achètent. Ça a l'air moins officiel qu'au terminal. Bon, peu importe. Et en même temps que ces passagers montent, il y a également tout un tas de vendeurs ambulants, essentiellement des femmes qui viennent vendre de la nourriture qu'ils ont cuisinée, donc des empanadas, donc des beignets, des petits casse-croûtes, des fruits coupés, des boissons. Et en fait, on comprend que c'est comme ça que les gens se font leur pique-nique pour le trajet. Il y a même un monsieur qui monte, il a un petit casque Madonna, un petit micro mobile accroché à l'oreille. Et le bus repart, donc lui, il reste dans le bus et puis il commence à expliquer tout un tas de choses. Alors, c'est tout en espagnol et il parle assez vite. Mais avec Daniel, on commence à comprendre que ce type, il parle de stress, de position, de mal de dos. Et là, nous, on hallucine, on se dit, mais en fait, il vient donner des conseils de posture dans le bus pour bien s'asseoir et dormir correctement sur un long trajet. Et en fait, pas du tout, on s'aperçoit au bout de 20 minutes de palabre, qui sort une crème de son sac. Et en fait, il est là pour vendre de la crème. Donc, c'est une crème antidouleur pour le dos. Et finalement, on réalise qu'il nous fait un vrai téléachat, mais comme à la télé, sauf qu'il est là, debout dans le bus. Et les gens, ils essayent la crème et puis ils en achètent. Et ce monsieur, il redescend à un stop au bout d'une demi-heure à peu près, après avoir vendu un certain nombre de flacons. Et là, on est assez ébahis par ce qu'on vient de voir, parce que c'est quelque chose que, on n'a jamais vu de notre vie. La nuit en bus se passe assez bien, même si jusqu'à minuit, il y a deux messieurs qui sont en train de regarder des vidéos sur YouTube avec le son à fond. Et en fait, ça ne gêne personne. Donc ça, c'est quelque chose auquel on va s'habituer en Bolivie et en Amérique du Sud de manière plus générale. C'est que les gens ne font pas trop attention aux autres. Il y a beaucoup de bruit. Mais en fait, c'est pas gênant quand vous-même, vous prenez de l'espace et que vous faites du bazar. Donc c'est assez surprenant au départ, mais finalement, on s'y fera. Et la première chose qui nous saisit quand on descend du bus, c'est le froid. Il fait un froid de canard. On rassemble nos esprits pour trouver un taxi, rejoindre la chambre d'hôte. Et là, au bout de 10 minutes, on arrive à la chambre d'hôte. On est accueilli par Camille. Il est presque en pyjama. Camille, c'est notre hôte, celui qui gère la maison d'hôte dans laquelle on va rester pendant quelques jours. Et il la gère avec son amie Soledad, qui est bolivienne. Je l'avais prévenu 2 jours avant qu'on arriverait très tôt. Et ils ont beaucoup l'habitude en Bolivie des bus de nuit qui arrivent très tôt le matin. Et comme la chambre était disponible, enfin nos 2 chambres étaient disponibles, ils nous ouvrent les chambres et puis on va vite se coucher, se mettre bien au chaud pour finir la nuit. Au début, on a du mal à s'endormir parce qu'on entend des fanfares. Et ça, Camille nous a averti quand on est arrivé que comme c'est la fête nationale le lendemain, donc l'équivalent de notre 14 juillet, et bien il y a toutes les fanfares de la ville, des écoles de la ville qui s'entraînent et qui commencent leur répétition dès 5 heures du mat. Et c'est un boucan de fanfares qui résonne dans la vallée parce que la maison d'hôte où on est, elle est plutôt en hauteur, en altitude. Et donc il y a toute la résonance qui se fait en contrebas. On finit par s'endormir et puis se retrouver tous les 5 autour d'un petit déj dans la cuisine, salle à manger de la chambre d'hôte. Et c'est trop bon, Camille et Soledad, ils nous ont fait du pain maison, il y a des pancakes, des fruits. C'est petit déj de rêve. Et nous, on s'est emmitouflés dans toutes les couches qu'on a dans nos sacs, c'est-à-dire pas grand-chose de très chaud, en dehors de nos doudounes. Et puis on a chacun un survêtement ou un leggings. Mais on se dit qu'on va avoir un bon programme pour aller s'équiper en ville. L'endroit où on loge, il est superbe. Surtout le jardin. Il y a un jardin où il y a plein d'oiseaux, pas mal d'arbres. Et on a vu sur toute la ville, qui est en contrebas. C'est vraiment magnifique. Et puis l'autre point, c'est qu'il y a un soleil sublime. Et ça, c'est quelque chose qu'on va vraiment apprécier pendant tout notre séjour en Bolivie. C'est que certes, il fait froid, mais par contre, le soleil brille quasiment tous les jours. Et ça apporte de la lumière et de la chaleur intérieure. Donc c'est quelque chose de très appréciable. On a réservé 3 nuits chez Camille et Soledad, mais finalement, on restera une 4e nuit pour passer 5 jours complets sur place. Parce qu'en fait, comme on n'a pas de plan pour la Bolivie, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Et on avait enchaîné 2 voyages de nuit en avion, en bus. On s'était dit que ça nous ferait du bien de nous poser pour prendre nos esprits, nous équiper contre le froid. C'est vrai que nos corps ont été habitués ces 9 derniers mois à des températures chaudes. Nous, on s'est baladé en short et en t-shirt tous ces derniers mois. Donc là, il va falloir qu'on aille acheter quelques vêtements chauds. Et puis, on a besoin que nos corps s'acclimatent à l'altitude. Là, à Sucre, on est déjà à 2800 mètres et on le sent. Quand on monte les escaliers, on est vite essoufflé. Enfin, on sent qu'on est un peu plus au ralenti. Donc tout ça, on se dit qu'il faut qu'on le prenne avec modération et qu'on y aille pas à pas. Alors notre premier point de rendez-vous, forcément, c'est le marché de Sucre. On va de stand en stand et on s'équipe en bonnet, écharpe, gants, chaussettes, collants, leggings. Et voilà, des sous-vêtements en tout cas chauds et pour couvrir nos extrémités. Pour les filles, on leur achète des bonnes polaires bien chaudes dans un garage. C'est une dame qui est là et qui vend des vêtements d'occasion. En farfouillant dans les rayons, on trouve 4 polaires qui sont super chaudes et qu'on achète pour 3 fois rien. Qu'on est trop content d'être bien équipé et de nouveau se réchauffer. Surtout que les chambres d'hôtes où on est, évidemment, n'ont pas de chauffage. On a un peu d'eau chaude dans la douche, mais c'est pas grand-chose. Et ça, c'est ce qu'on vivra dans la plupart des hébergements en Bolivie, où le chauffage, ça n'existe pas, quoi. La ville est très jolie et agréable, les restos aussi. On mange pas mal de soupes dans les formules de plats du jour et de menus tout compris. Mais parce qu'en fait, il fait froid et ça nous réchauffe, ça nous fait très plaisir de manger ces soupes. Et notre contact avec les Boliviens, il est agréable parce qu'en fait, ils sont réservés, donc ils ne sont pas hyper expansifs et très souriants. On voit quand même qu'ils vivent dans un pays rude, dans des conditions rudes. Mais par contre, dès lors qu'on va leur acheter quelque chose ou leur poser une question ou converser avec eux, ils s'ouvrent et ils sont vraiment très agréables et ils font tout pour vous rendre service. C'est très agréable pour nous
de pouvoir déambuler librement comme ça dans la ville, d'avoir ce contact agréable aussi avec les locaux, mais sans être sursollicité comme ça a été pas mal le cas en Asie. Et ça, on trouve ça reposant et simple, facile, c'est très agréable. On a une bonne surprise aussi au niveau de l'ambiance de la ville, parce que quand on arrive, c'est la fête. Donc c'est la fête pour la fête nationale. Il y a beaucoup de fanfares qui défilent, des écoles. Il y a un défilé militaire également. Et puis le lendemain, c'est la fête des mères. Donc là, au marché, il y a beaucoup de stands avec des gâteaux très crémeux, beaucoup de bouquets de fleurs. Dans la rue, des gens qui se baladent avec des ballons en forme de cœur. On sent que c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, il y a même le salon du chocolat quand on y est pendant notre séjour. Donc, on va aller faire un tour et acheter tout un tas de gourmandises. Enfin, c'est très festif comme ambiance. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Un petit tour et puis changeons. Ça vous a plu? Venez écouter l'épisode 28 sur la deuxième partie de notre voyage en Bolivie. À bientôt!